Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble partout. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Parlons-en ce matin, c'est quelque chose en tout cas qui depuis ce week-end nous a interpellés à plus d'un point. Et nous avons décidé ce matin de le ramener à l'antenne pour qu'ensemble nous puissions évidemment en discuter. Armel Mehdi, de quoi s'agit-il ce matin ?
On parle justement de santé maternelle. Hein. Et si la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le chemin de l'émergence traduite par le développement des infrastructures, la modernisation du paysage de ces grandes mégapoles et une croissance à 7% malgré un contexte marqué par la Covid-19, Il y a un domaine où notre pays est mauvais élève, celui de la santé maternelle. Après que des voix se soient levées à Daloa et bien d'autres villes pour parler du traitement des parturientes dans nos centres de santé, des chiffres viennent de confirmer le mauvais état de la santé maternelle. Mmh. 600 femmes sont mortes en couche cette année 2022. Mmh. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour inverser la tendance? 27 225 49 880, vos avis et commentaires nous intéressent.
Mmh, parfait. Lynn Begré, pour ajouter encore un tout petit peu à tout cela, sinon plutôt Ange Kouakou, qui va nous donner justement quelques chiffres ce matin.
J'ai été rebaptisé. Hein.
Mmh, pardon.
Ouais, mais Kouakou,
j'ai été rebaptisé, c'est Ange Kouakou.
Comment tu dis, monsieur de Perpignan?
Il dit Kouakou ou Kouassi, c'est même mon Ange.
Ah, d'accord.
Alors, concernant la santé et la mortalité maternelle, il faut savoir que chaque jour dans le monde, c'est 800 femmes qui meurent pendant leur grossesse ou en couche. Mm-hmm. Et la plupart de ces décès maternels ont lieu dans les pays en voie de développement. Et il y a deux pays qui concentrent le plus grand nombre de décès. Mm-hmm. Il y a l'Inde avec 50 000 femmes et le Nigeria avec 40 000 femmes. Mm. Voilà. Donc c'est très 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 parlant.
Ouais, franchement, ce matin, les amis, nous avons décidé en tout cas d'adresser cette question. 27 225 49 880, qu'est-ce que vous en pensez vous ce matin? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai que autant la santé infantile est extrêmement importante, autant celle de la mère aussi elle l'est. Donc la maman doit bien se porter, l'enfant doit bien se porter, c'est vraiment important. Alors, on va essayer de faire... Oui, Lynn ?
Non, vas-y, tu continues et puis sinon... Bon, ok, il n'y a pas de souci. Alors, déjà, je voulais rappeler, c'est 604 décès pour 5000 naissances vivantes, on va dire.
C'est énorme, ça, quand même.
C'est énorme. Ouais. Et rapporté à la population en Côte d'Ivoire 2020, on est à 26 millions, j'essaie de donner les chiffres, 378 274 habitants, ce qui correspond à environ 4535 femmes qui meurent chaque année en donnant la vie ici en Côte d'Ivoire.
Alarmant.
Et déjà, comme tu parlais de qu'est-ce qu'on pense de tout cela, moi, dans un premier temps, hein, il y a un constat qui a été fait quand on a essayé de discuter un peu avec les sages-femmes et tout. Mm-hmm. C'est au niveau de la consultation prénatale. Mm-hmm. Parce qu'il y a des dames aujourd'hui, il y a des régions surtout, c'est à l'intérieur, dans les zones un peu retranchées, où certaines femmes ne partent pas pour les consultations. Et c'est parfois à la dernière minute qu'elles arrivent à l'hôpital parce qu'elles sont comment dirais-je ?
Elles sont en travail.
Elles sont en travail, Et elles partent maintenant pour l'accouchement et ça crée des problèmes et pour elles-mêmes et pour l'enfant. Mmh. Donc pour moi, déjà, c'est l'une des premières causes. Mmh. Maintenant, la seconde, bon, je sais que les autres aussi, ils sont là.
Monsieur le Perpignan, voilà aujourd'hui la question de la santé maternelle. 600 femmes, vous avez dit par an ou par mois, là ? Vous avez dit par an, c'est ça ?
Par an.
4535 femmes qui meurent chaque année en donnant la vie.
En Côte d'Ivoire, 600.
Ouais. Donc l'autre chiffre qu'on avait, c'était quoi?
604 décès pour 100 000 naissances.
Voilà.
Wow. C'est-à-dire pour 100 000 décès.
100 000 naissances en Côte d'Ivoire.
Oui.
D'accord.
On reprend pour ne pas se tromper. 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mm-hmm. Et les 4535, c'est par année. Bon, ce sont des chiffres, on va dire.
Des statistiques.
Voilà, des statistiques.
D'accord. Bon, écoutez, on a tous ces chiffres-là. Et donc, maintenant, chacun d'entre nous ici en studio déjà va donner son commentaire là-dessus avant que n'interviennent certainement nos auditeurs. Monsieur Le Perpignan, on va commencer après Lynn par toi.
Alors, en tant que médecin de garde, vous voyez, moi, dans ma conception, quand ta femme ou ta sœur ou une femme enceinte, elle est en danger jusqu'à ce que tu attends guerre et qu'on dit allez-y à la maison. Mm. Même ta propre femme, quand elle est enceinte, moi, pour moi, je suis pas tranquille jusqu'à ce que il y ait l'accouchement parce que beaucoup de choses peuvent se passer.
C'est ça.
D'accord. Quand Lynn disait que peut-être qu'au village, là, on va dire la majorité de ces cas arrivent dans les hameaux puisqu'il y a problème de consultation prénatale, je dis d'accord, mais aussi on faut remarquer que dans les zones comme Abidjan aussi, il y a des demoiselles qui, par négligence, négligent certains trucs. Comme on le dit tous les jours, oui, je veux que mon enfant n'a qu'à devenir clair, il faut boire la bière. On se comporte mal quand on est dans cette situation-là. Et après, on paye les frais et malheureusement, ça gonfle les chiffres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me dis, c'est de sensibiliser, on continue de sensibiliser. Ça fait des milliers d'années qu'on continue, on sensibilise sur ce truc-là. Allez-y, dès que vous avez votre première grossesse, enfin, votre deux mois, trois mois, il faut aller prendre son carnet, il faut être suivi. Et aussi, quand on fait ça, pour ne pas trop tarder dessus, c'est que l'État doit aussi aider ces jeunes mamans-là, ces futures mamans-là, en essayant quand même de ne pas les effrayer. Vous voyez, les femmes aujourd'hui ne vont pas à l'hôpital parce qu'elles disent qu'à chaque rendez-vous, il y a ordonnance. À chaque rendez-vous, il faut payer quelque chose. Et donc, quand le monsieur et sa femme, ils sont dans leur couple et qu'ils sont enceintes, enfin, la dame est enceinte, de peur que chaque mois, monsieur ne débourse un rond, de peur que la dame, elle aussi, elle ait la peur d'aller payer des ordonnances, elle ne va pas. Donc, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Le fait qu'on donne rendez-vous chaque mois, et chaque mois il faut donner des ordonnances, et chaque mois il faut payer des médicaments, je pense que ça effraie aussi les dames, les futures mamans qui
on est concernées. On va être enceinte, on va dépenser.
Oui, mais on est sûr, mais il faut que ça soit vraiment avec beaucoup d'amour, et pour que les femmes enceintes aient l'envie, pressantes d'aller se faire consulter, fréquenter les hôpitaux. Sans ça, on va toujours rester dans ces. Voilà, dans ces doutes, à qui la faute? Est-ce à notre médecine ou est-ce à la négligence des femmes là? Ou est-ce aux situations géographiques de certaines femmes qui, malheureusement, perdent la vie dans cette histoire-là?
En tout cas, là-dessus, je suis, mon très cher monsieur Le Perpignan, en partie d'accord avec toi. Mais une chose est sûre, une chose est claire, la santé, globalement, comme on le dit, même si c'est une formule qui pourrait sembler parfois désuète. La santé n'a pas de prix, c'est très important. Il vaut mieux avoir une femme en bonne santé, un enfant en bonne santé, que dire, tiens, je fais l'économie de mes moyens, parce que quand on va en consultation prénatale, sinon postnatale, il y a telle ou telle ordonnance et tout. Voilà, pour moi, c'est un argument qui ne devrait pas avoir une valeur...
Bien dit, ne devrait pas.
Avoir une valeur assez profonde. Ange Kouassi, ce matin, quel est pour toi ton avis là-dessus? C'est vrai que tu as eu, par la grâce de Dieu, en tout cas, d'expérimenter justement d'être mère. Qu'est-ce que tu constates, toi? Quand tu pars à l'hôpital, c'est quoi le processus? Comment ça se fait, etc., etc.
De Perpignan l'a dit, on parle toujours du plateau technique. Hein, on parle, les femmes ont peur d'aller à l'hôpital. Voilà, parce qu'il faut toujours débourser de l'argent à chaque fois qu'on part à l'hôpital. Il y a des ordonnances à payer, il y a l'échographie à faire, par exemple. Donc, c'est un peu fatigant pour certaines personnes, pour certaines femmes.
Mais en même temps, ces femmes-là le savent, en fait. Elles y sont plus ou moins préparées. On sait que quand on contracte, évidemment, une grossesse...
J'ai pas envie de dire de bêtises ici.
Vas-y, c'est moi-même. J'ai pensé la même chose aussi.
Vous parlez par exemple de celles qui disent que je suis tombée enceinte par accident. Là, tu le fais comment? Il n'y a pas de moyen. Voilà, pour quelqu'un qui a désiré une grossesse, il n'y a pas de problème. Le suivi, il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un qui n'a pas désiré et qui a contracté une grossesse, on va dire, par accident.
Et comment la chrétienne ne peut pas avorter?
Elle ne peut pas avorter. Elle est obligée de voir.
Elle peut avoir une relation avant mariage, c'est bien.
Non, mais c'est
et là, c'est un peu compliqué pour les consultations prénatales. Voilà, parce qu'il faut payer d'abord la consultation, il faut payer les médicaments, il faut faire les échographies. Et c'est en moyenne 4 consultations tout au long de la grossesse qui dure 9 mois.
Voilà. Par exemple, au moins 50 000 francs par consultation.
Non, pour des soins élevés, on va dire 50 000 francs. Mais bon, pour les petits soins avec les centres de santé urbains, voilà, là, on ne débousse pas grand-chose. Voilà, mais ce qu'il faut faire, c'est de rapprocher ces centres de santé-là des femmes et puis les sensibiliser. Parce qu'on trouve ces centres de santé-là dans les quartiers. C'est plus dans les quartiers. Donc, essayez de sensibiliser ces jeunes dames-là à dire que non, venez à l'hôpital, c'est bon pour vous, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour votre santé. Parce qu'à la fin, voilà, en repas à la maison avec son bébé entre les mains, en bonne santé
et soi-même en bonne santé. Bon, enfin, on va aborder un autre aspect, bien évidemment, de la question que nous adressons ce matin. Mais avant, il faut bien que nous prenions l'avis de M. Armel Mehdi et Kazoua.
Je pense que la santé, c'est un indicateur de développement. Donc, on voit si une nation se développe également, il faut voir comment la population se porte, il faut voir comment le taux de natalité, la santé maternelle, c'est également l'éducation. Et ce qu'on constate également, c'est que nous sommes dans un pays où les infrastructures évoluent. L'État fait beaucoup pour la construction des hôpitaux, pour la construction des écoles. Mais une question qui reste toujours en suspens, c'est la qualité des hommes qui vont diriger ces centres, la qualité des sages-femmes, la qualité de nos infirmiers. C'est surtout l'intégrité de ces personnes qui dirigent nos centres de santé. La santé, là, il prête serment. Mais rappelez-vous, il y a tellement
le fameux serment d'Hippocrate.
Hippocrate, ce qui est devenu le serment d'Hippocrate, selon moi. Regardez, vous partez à Dalois, une dame meurt en couche parce que le monsieur qui était de garde n'est pas venu. Il y a tellement de cas.
Il y a beaucoup de négligence.
Et quand on dit que les femmes n'ont pas été responsables, ne sont pas préparées, on connaît aujourd'hui plusieurs femmes intellectuelles qui ont des moyens. Moi, j'ai une amie qui est sage-femme, qui est morte en couche. Je connais un monsieur qui est professeur de mathématiques. Sa femme est morte en couche. C'est-à-dire que ce n'est pas une question véritablement de moi, c'est une question déjà de la qualité de ce qu'on donne comme soin dans nos centres de santé. Et donc, il faut déjà qu'à la base, même dans le recrutement, on n'ait pas l'impression qu'en Côte d'Ivoire, pour être infirmier, il faut payer, pour être instructeur, il faut payer. Quand on va mettre l'excellence dès la base, donc même depuis le concours d'entrée à l'INFAS, et qu'on va revaloriser le statut du personnel de santé. Comme avant, quand tu étais médecin, même quand si tu n'avais pas assez d'argent, il y avait un certain respect qu'on avait pour toi.
Tout à fait.
Que la communauté avait pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui on voue ce respect-là
à nos médecins,
à nos sages-femmes, à nos infirmiers? Est-ce qu'il faut rêver les gens? Déjà, il faut penser à cela.
Monsieur Armel Mehdi, pour une fois, je peux vous garantir que pour une fois, je suis absolument d'accord avec vous à 100%. En tout cas, votre angle d'intervention est des plus forts ce matin. Et on rappelle, bien évidemment, s'il y a ce matin à l'écoute des sages-femmes, s'il y a à l'écoute des femmes, vous pouvez nous appeler et puis partager évidemment vos expériences et puis nous dire ce que vous pensez, en tout cas, de ces chiffres qui sont extrêmement alarmants. 600 décès par là, 4500 par année, sur quoi, 5000 naissances vivantes.
Oui, on a dit 614 décès pour 100 000 naissances vivantes.
Eh bien, dis donc.
Maintenant, Lynn disait un truc important, en zone rurale. Est-ce que, selon ces chiffres-là, il y a plus de morts en couche dans les zones urbaines qu'en zone rurale? En zone rurale, par exemple, il y a des matrones qui suivent les faits de grossesse, qui les accompagnent jusqu'à terme. Quand il y a des complications, qu'on va à l'hôpital, bon... C'est vrai que moi je suis d'accord pour que la santé traditionnelle et moderne se combinent. Mais est-ce que dans les zones rurales on meurt beaucoup? En ville par exemple?
Pour expérience, on meurt moins.
En zone rurale.
En tout cas dans ma zone, moins de cas de mortalité que voilà
ce que je sais. Dans tous les cas, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le facteur, on a parlé de finances. Voilà, pour des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de pouvoir suivre la consultation prénatale. Il y a également le cas qu'il a soulevé pour le personnel, parce qu'il y a le nombre aussi qui est défaillant. Voilà, il y a le nombre qui est défaillant.
Parfois, ça veut dire quoi? Qu'on a plus de patients.
Voilà, on a plus de patients et moins de personnel.
Traitant.
C'est ça. Et puis, on a également le matériel technique aussi. Est-ce que toutes nos maternités sont vraiment
équipées déjà?
Et puis, il y a des métiers qu'on n'exerce pas pour juste. Je veux dire, parce que je dois être payé à la fin du mois, j'ai besoin d'argent. Non.
Il y a le métier sacerdote, en fait.
Effectivement. Il y a, par exemple, le métier de la sage-femme, il y a le métier du médecin, il y a le métier de l'enseignant. Voilà, ce sont des métiers qu'on exerce. On ne rentre pas là-dedans parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué des personnes, on dit, bon, comme il ne fait rien à la maison, c'est un peu comme le concours de police pour certains.
C'est ça.
Bon, on va inscrire l'enfant, tu attends qu'il est là-bas, tu passes le concours.
Juste, tu sifflais sur la route.
Voilà. Non, mais c'est vraiment important ce métier-là.
Justement.
Je pense qu'il faut vraiment que les gens. Créer certaines conditions pour dire, bon, pour venir faire ce métier, il faut tel critère.
Telle aptitude.
Avant, Armel m'a dit, excuse-moi, il y a une chose aussi qui est pour moi extrêmement importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le tour de la question, on parle des plateaux techniques, on parle du personnel soignant, etc., etc. Mais bon, il faut aussi qu'on mette en relief la responsabilité des parents, c'est extrêmement important, franchement. Je ne crois pas qu'un parent responsable se lève comme ça un matin en voulant faire un enfant, en n'ayant aucune idée de ce qu'il propose pour l'avenir de cet enfant, en ne voulant pas que cet enfant-là soit en bonne santé. Parce que, enfin, ça, franchement, ça ne descend pas dans mon esprit, j'avoue. Peut-être que mon esprit n'est pas un esprit aussi brillant qu'il puisse paraître, mais je me dis, comment on peut se lever un matin? On décide de faire un enfant en sachant que quand une femme est en grossesse, tout ce processus jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher, ça va générer des frais, il y aura on doit aller à l'hôpital, on doit faire tout ça, et puis bon, un enfant aussi, tant qu'il est enfant, tant qu'il est en vie, même si celui-ci s'est accompli plus tard, c'est la responsabilité toujours des parents. Donc ça me...
Non, mais si les gens veulent faire ce genre de calcul, il n'y aura pas d'enfant.
Que tu n'aurais pas existé,
c'est normal, parce que c'est comme si tu disais au monsieur qui se débrouille dans son petit sicobois là-bas,
en tant que père de famille, quand j'analyse comment nos parents ont réussi à nous éduquer, oui, tu dis c'est des gars qui ont fait de la magie.
Ouais.
Imagine chez vous à la maison, vous êtes combien d'enfants? Et va prendre le bulletin de paye de ton père, tu vas voir que c'est pas des gens qui touchaient 400 000, qui touchaient 500 000. À part peut-être des primes, va voir leur salaire de base. Va voir leur salaire de base. Mais ils sont occupés des enfants, des cousins, des neveux.
Oui.
Éduqués et qui ont réussi. Et des gens aujourd'hui, ils ont un million.
Mais bien sûr, ils savaient que.
Et le seul enfant qu'ils ont, n'arrive même pas à manger.
C'est dire que c'est un miracle quotidien.
Ils faisaient des sacrifices, chers amis. Moi, mon père, nous sommes quoi, une bonne dizaine d'enfants. Son petit salaire de banquier, enfin, puisqu'il a fait un peu de journalisme avant, après de banquier, c'était pas assez terrible. Mais bon, il s'est débrouillé pour quand même placer chacun quelque part. Pardon.
Avec tes longues
ongles. Bien sûr, bien sûr.
Il aurait pu dire.
Le fait est qu'il savait. Il savait que je suis en train de faire un enfant. Je vais donner à cet enfant telle ou telle trajectoire. Et tout, je vais m'occuper de l'enfant. Pas. Il savait.
Le premier né de ta famille, excuse-moi, de immiscé.
Oui.
Est né avant que ton papa ait de la sanction. Ou quand il était encore au lycée, enfin au collège, ou étudiant.
Non, il bossait déjà, mon père, quand il a fait son premier enfant. Tu vois, il ne l'a pas fait avant. Voilà, il bossait déjà. Il a fait son premier enfant. Et puis après, moi, je suis venu en deuxième position, etc., etc., tu vois. Bon. Je me dis quand même que...
Il y a les familles où, au moment où le monsieur, il est en stage, ou même qu'il est étudiant, ça arrive. Et comme on le dit, forcément, on veut avoir
des enfants. Mais en même temps, si ça, c'était un autre contexte, mon cher monsieur Le Perpignan, c'était les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, dans les années 2000, là, on peut pas se lever comme ça.
Mon GG, tu sais que la fécondité, on parle de la fécondité a baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, les jeunes font moins d'enfants. L'État se plaint pour ça. Donc, vous voyez qu'on a tellement en train de réfléchir sur ces genres de paramètres-là. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps. Je me lève à 5 heures pour aller à la radio. Est-ce que j'aurai le temps de m'occuper d'un enfant? Est-ce que j'ai des moyens? C'est ça qu'il dit. Nos parents avaient 7 000 francs par mois. On est né, on a été éduqué. On a eu la chance d'avoir une place dans la vie. Donc, je crois que la première des choses, quand on est croyant, peut-être quel que soit ce que tu crois,
on va terminer par là.
Tu as un Dieu, il faut y aller. Allez, on fait l'amour maintenant.
Maintenant, attention, on indexe parfois les spécialistes de la santé. L'État également prend beaucoup de belles décisions.
C'est ça.
Beaucoup de belles déclarations. Est-ce que ces déclarations se suivent d'actions sur le terrain?
C'est ça.
On te dit par exemple que quand tu accouches dans une maternité publique, tu as
l'accouchement gratuit.
Quand tu dois subir une césarienne, l'État doit t'accompagner. Mais les médecins, à chaque fois, ils sont désemparés. Parce que le kit n'est jamais
là. C'est vraiment pas vrai. Il n'y a pas de vérité à cela. L'accouchement gratuit, on va débourser l'argent, surtout. Et c'est en ce moment-là même que les gens vont créer ces histoires de césarienne, d'intervention par césarienne, et plus pour faire payer les parents. Voilà. Alors que tu es parti, tu as fait tes consultations tranquilles, tu n'as pas eu d'anomalie, on ne t'a détecté aucune anomalie, donc tu es censé accoucher par voie basse tranquillement, et là quand tu arrives, tu dis mais non, elle ne peut pas accoucher, non, il y a eu un cordon ici, il y a eu celui-là par là, l'enfant est en, l'enfant est en telle position, il faut une intervention chirurgicale alors qu'on ne s'est pas apprêté pour ça.
Mais écoutez, je voulais renchérir, si tu me permets rapidement.
Oui, en 10 secondes, parce qu'il est déjà 8h30.
Cette histoire de césarienne, moi je suis allé, j'ai vu à l'hôpital, je le dis parce que c'est public, de Port-Boué là.
Oui, l'hôpital général de Port-Boué.
C'est écrit césarienne gratuit. J'ai eu gratuit. Mais j'ai fait un j'ai eu là-bas. J'ai payé 350 000 balles.
Nom du Seigneur Jésus.
Voilà. Mais là, on te dit que c'est le kit que tu as acheté.
C'est le kit que j'ai acheté. Non, c'est 80 000. je paye les 80 000 pour qu'on la prenne en charge. Mm-hmm. Et après, c'est, il faut payer ça. Il faut payer la chambre. Il faut payer telle intervention.
350 000.
Et il y a un truc, aujourd'hui, on te demande une sorte de caution. Une sorte de caution avant de.
Qu'est-ce qui est gratuit? Et donc, ce qui fait qu'on a peur d'aller à l'hôpital. Mmh. Et après, malheureusement, ça arrive.
D'accord. Merci les amis. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire ce matin. Il est déjà 8 heures passées. On peut continuer à en parler parce que c'est jusqu'à relatif samedi, à la famille. Mais bon.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ? 3, 2, 1, go. Life Radio. Le quotidien, comme tu l'entends.